www.radio-g.fr. Favorites passing me by. Hey! Detonate the spot. All you see is homage. If you ain't pumped, all you need is some courage. Yeah, I said some, cause I don't feel it all the time. It's the out of the blue feeling I got it, it's mine. Can't stop my pretty or the gift that's in me. Going all out with ginger ale and honey. Get the rocks out of your shoes, Brooklyn and Toulouse. Mikhail picked the spots to serve the best food. Don't get to see the fam much, when I do we load up. Panama City Resort, I'm at the tennis court. Later on about that, the kind of cheer out back. Bring your body closer, watch how
yeah,
I adapt.
We going all out, all out. Yeah, we going all out. A kiss, get a casket, dope in the basket. They train me to bring rain on a nigga's casket. Never talk to ratchets, they can't even catch it. Never get my soul away, don't even ask it. Bury the hatchet in the IKEA mattress. Put it up in storage where they can't even match it. And here's the hat trick, flip it up that quick. Now I'm in the caddy in the valley with an actress. I'ma do a backflip, wind up in Athens, Georgia. In a house party selling acid. Yeah, buddy, that quick, freshman, top pick. 1 mile above. You're smoking in the cockpit, the cockpit, the cockpit, the cockpit. Open the windows, open the doors. I'm gonna run away to blue shores. They can't hold us back from that goal. They can't hold us back no more. Open the windows, open the doors. I'm gonna run away to blue shores. They can't hold us back from that goal. They can't hold us back no more. Open the windows, open the doors. I'm gonna run away to blue shores. They can't hold us back from that goal. They can't hold us back no more.
Bah, qu'est-ce qu'il y a, Fuzati? Ça va pas?
J'en ai marre, j'ai pas d'amis.
Tu sais, le hip-hop sera toujours là pour toi.
C'est vrai?
Le hip-hop, c'est mon pote. Il m'invite à manger chez lui. Tous les lundis, c'est spaghetti. Et les mardis, c'est rock and roll. Le hip-hop, c'est mon pote. Qui travaille au quick. Qui me sortait des cheese et des boissons gratuites. Pendant que le manager faisait frire les frites.
Le hip-hop, c'est notre pote. Surtout quand il sonne faux. Mazo, j'aime quand il me cogne. Violent comme un pogo.
Le hip-hop, c'est mon pote. Il me check quand je le croise dans la rue. Je lui demande qu'est-ce que tu fais.
Bah rien, je me prostitue.
Le hip-hop, c'est mon pote. Sauf quand il squatte la salle de bain. Qu'il rappe avec la brosse devant la glace.
Le hip-hop c'est la lumière qui se cache derrière mon iris. Malicieux comme un morpion qui s'accroche à un buis.
Le hip-hop c'est mon pote et celui de tous ceux qui ont arrêté le basket. Depuis Jordan est à la retraite.
Le hip-hop était mon pote jusqu'au jour où j'ai vu Star raconter avec du champagne et des mannequins dans un clip pourri de R&B. Après je lui en voulais trop, mais en fait ce n'était pas lui.
Ah bon bah, ça va alors.
C'est mon ami.
Moi aussi.
C'est notre ami commun.
Dans le rap on est tous copains.
Le hip hop c'est mon ami.
Moi aussi.
C'est notre ami commun.
Dans le rap on est tous copains.
Le hip hop c'est mon pote. Vu qu'il me fait voyager au creux de la pulsion plutôt que de me perdre au centre du
vide. Le hip hop et moi on est intime. Je peux même te dire qu'il est juif et qu'il adore le pazim.
Le hip hop c'est trop mon pote. Mais je me demande si moi je suis vraiment le sien. A chaque fois que je repense à toutes tes fois, il m'a laissé en chien à l'entrée des concerts. Mes parents disent que c'est juste un ami imaginaire. Comme Gustav, ce petit farfadet à qui j'aime confier mes échecs amoureux.
Le hip-hop c'est mon copain, taquin, malin, câlin, un brin coquin. Un peu souris l'a rendu du dessus mon voisin.
Le hip-hop c'est mon pote, je crois qu'il drague ma petite sœur. Je fais semblant de ne pas avoir remarqué. Mais pour son anniversaire, il lui a payé un ghetto blaster.
Le hip-hop c'est mon pote quand il me fait rentrer au bain. Et grâce à lui, je fais la bise à la pute des podiums sur les deux seins.
Le hip-hop c'est mon critique de cinéma. Grâce à lui, j'ai vu Titanic pour le côté romantique. Et avec méga Scarface, c'est le paratroi.
Le hip-hop est mon meilleur pote, c'est pour ça qu'il finira par baiser ma femme. Voler mes thunes et mourir de regard à Amsterdam.
Le hip-hop c'est mon ami.
Moi aussi.
C'est notre ami commun.
Dans le rap on est tous copains.
Le hip-hop c'est mon ami.
Moi aussi.
C'est notre ami commun.
Dans le rap on est tous copains.
Le hip-hop c'est mon pote. S'il était un métier, il serait opticien dans la rue des faux. B-boy au petit soin, créateur de l'expression.
T'as vu.
Le hip-hop c'est mon super pote quand il fait le boxon. Mais un ennemi quand il est plat comme une vibe de Matthews.
Le hip-hop c'est mon pote. Mais je me demande s'il n'est pas un tout petit peu con. Pour ne pas se rendre compte que la plupart des gens qui traînent avec lui ne visent qu'à une seule chose, son exploitation.
Ouais, mais moi, il m'a fait un dessin dans mon agenda.
Ouais, super.
Le hip-hop, je les connais trop bien. Un jour, je me baladais à Châtelet, je l'ai croisé dans un magasin. Et il m'a même serré la main.
Je n'ai que 10 doigts sur mes mains. Et si je consacre l'un de hip-hop, je garderai le majeur pour mes ennemis. Car malgré tout, il reste mon pote.
Le hip-hop, c'est mon poteau, appelé l'invisible ami. Imaginaire et irréel, comme la femme de Futsaki. Le hip-hop, c'est mon pote, néo-poète sans barrière. Et pour faire bien, je philosophe comme sur Paris Première.
Le hip-hop, c'est trop mon pote, mais j'ai des doutes sur sa sexualité. En général, il s'accorde mal avec la féminité.
Le hip-hop, c'est mon pote homo. Il fait des peintures dans les galeries. Il est ami avec Jean-Paul Gaultier et Nana Mouskouri.
Le hip-hop, c'est mon pote homo belge.
Et alors,
ouais.
Allemand, 130 000. Travaille dans une banque du centre-ville et tu l'auras compris, le bureau de monsieur n'est pas au rez-de-chaussée, le bureau de monsieur est en hauteur. Costume sur mesure, 4 000. Il en impose dans les couloirs, parfaitement corporate. Un bel exemple de réussite, monsieur s'est fait tout seul, a bien placé ses billes et ne s'en cache pas. C'est d'ailleurs son histoire préférée. Monsieur a l'arrogance des nouveaux riches, mais dans son nouveau milieu, ça passe bien. Ça passe pour de l'ambition, il n'y a rien de mal à ça, oh non, bien au contraire. Monsieur flambe, a le teint allé en toute saison, il a la forme et s'entraîne au meilleur club de la ville. 30 000 à l'année, hors frais de fonctionnement, il en est actionnaire et voit ça comme une petite consécration. Vêtu d'un tailleur de marque italienne, 6 000, madame, quant à elle, ne travaille pas, mais madame est débordée. La bonne s'occupe des gosses, fait à bouffer, le service et le ménage, mais madame ne s'en sort toujours pas. Faut dire que la maison est grande, et madame doit la meubler. Madame peine avec la styliste que lui a conseillé sa chère voisine au gala de bienfaisance d'une marque d'ordinateur leader sur le marché. 20 000. Le soir, une fois rentrée du travail, la tête pleine de réunions et de repas d'affaires harassants, pleine de cruciales décisions à prendre et de chiffres colossaux en jeu, monsieur retrouve madame. Les enfants font leurs devoirs et sont couchés, il est 21h. Monsieur se sert un verre et veut se détendre. Comme d'habitude, il passe au petit salon, mais fait tomber son verre en chemin. Au bruit du verre cassé sur le marbre d'Italie, la soubrette, qui sent, et c'est un bon prix, sort aussitôt de la cuisine pour nettoyer ça rapidement et retourne à sa place, ni vu ni connu. À cet instant précis, il dit avec satisfaction à sa douce moitié siliconée en lui tapant les fesses. T'as vu que j'avais raison, les Éthiopiennes c'est une affaire. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est efficace. Vulgarité, ne dis jamais fils de pute. Enculé ta race ou va niquer ta mère. La vraie vulgarité ne tient pas ce vocabulaire. Elle se cache derrière de belles familles, de belles carrières, de sourires hypocrites et de bonnes manières. Tu la reconnais au ton condescendant. La vraie vulgarité se lâche comme ça, en plaisantant. Elle croit que tout lui est dû, que tout s'achète. L'argent et le pouvoir lui sont montés à la tête. Elle fait son beurre sans scrupule dans la misère. La vraie vulgarité sait comment s'en satisfaire. Vénale, sans complexe, elle s'étale, dégueulasse. Elle a ce mépris de classe qui fait mal. Elle est vicieuse, vieux, elle est sournoise. La vraie vulgarité, elle est bourgeoise.
Un jeudi sur deux, de 21h à 22h, retrouvez votre émission Good Oldies, présentée par Marc. Good Oldies, c'est la pop-rock des années 60 à nos jours.
Radio G, 101.5 FM. We'll be right back.
mountains in the sunlight. Wanna leave the ground and drink the sky. Wanna climb the clouds and swim in the sunlight. Wanna leave the ground and drink the sky. Touch the rockets, the planets, taste the cosmic. Wanna sit in between the northern star and the Big Dipper. We are looking for the perfect place to breathe the air from the space. What do we feel when we touch the timeline of the solar race? What do we feel when we touch the timeline of the solar race? Maybe it's easy and beautiful there.
We wanna see from the space.
Traveling few million light years. The rockets sing while the machines fight. But we lost control, we're out of the orbit. What's going on? This is cosmic, we're falling. Falling, falling, falling. A furious rhythm cut the fall. We lost control. We lost control. The golden dolphin is riding a shooting star. We're still falling. 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 The space keepers finally asked the question. Are you lost? Where are you going? What's going on? What's going on? What's going on?
Your best friend. J'ai oublié de nous mettre en direct. Donc depuis tout à l'heure, on parle dans le vide.
Oh merde.
On est nul. Normalement, on est en direct maintenant. Désolé les gens. On va pouvoir la refaire, hein. C'est pas grave. Merci ma chérie d'amour de femme de m'envoyer un petit texto pour me signaler que je suis nul. Bon, c'est pas grave, ce sera une émission plus courte.
Voilà.
On va recommencer.
Allez.
On a que ça à faire. Là on est en train de vous parler de Twisted Wonderland, publié aux éditions Nobby Nobby, qui est un partenariat avec Disney, qui est adapté d'un jeu vidéo fait pour manga, où on suit l'histoire d'un jeune garçon qui fait du kendo, qui s'est pris un carrosse tiré par deux chevaux noirs. Il s'est réveillé dans un cercueil, et là il atterrit dans une école de magie façon Harry Potter, avec plusieurs maisons. La particularité, c'est que ces maisons là elles sont chacune dédiées à un grand méchant Disney. Et la maison dans laquelle il est, Hurtsliabul, est une maison qui est dédiée à la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles.
Mmh. Mmh.
Donc on a tous les personnages qui sont classés par ordre de préférence, on va dire, selon les couleurs de cartes, pique, cœur, trèfle, carreau. Et puis, ils ont leur niveau, as, valet, roi. Et du coup, ce jeune garçon qui, lui, ne fait pas du tout de magie, il va causer un petit problème. Et les gens vont un petit peu se fâcher. Donc, il se met à peu près toute l'école à dos.
Mm-hmm.
Et on l'oblige à collaborer avec les autres, puisque de toute façon, il ne pourra pas repartir.
Bien, bien. Alors, c'est une collaboration avec Disney. Enfin, c'est... Parce qu'on voit bien le logo Disney hein, sur la couverture.
Ouais.
On retrouve le fameux château de. Alors je sais, mes connaissances en Disney sont assez faibles. Donc il y a le fameux château avec plein de tours qu'on voit.
Celui de la Belle au Bois Dormant.
Celui de la Belle au Bois Dormant. Donc on retrouve ça. Par contre, tous les personnages, on n'est pas chez Disney, quoi. C'est clair. Hein, on est dans un manga pur, dans un vrai manga, quoi.
Hein. Il y a un chara-design très poussé. C'est très détaillé en termes de personnages. C'est pas mal chargé, ce qu'on retrouve parfois dans le shoujo, avec des personnages qui sont vraiment assez longs, assez c'est tous des beaux gosses, hein, y a pas un seul moche. Moi je trouve qu'il y a un petit peu de Clamp, alors que tu connais peut-être pas, mais qui a un grand studio de manga japonais, et qui a ce souci du détail, de mettre beaucoup de détails dans leur dans leur travail, avec des personnages qui sont souvent très grands et très efféminés, malgré eux.
Et on retrouve, alors sur certaines planches, on retrouve les personnages de Walt Disney, la reine, la méchante sorcière. Donc on les retrouve, hein, ils viennent consolider un peu apparemment le dessin et l'histoire. Mais bien sûr, comme tu dis, c'est vrai que c'est un graphisme quand même très particulier, ouais. Très, effectivement, ces grands personnages, là, très allongés, ouais.
Et ça marche bien. À voir sur la suite. C'est une série qui est annoncée courte. J'ai mangé le nombre de tomes qui étaient annoncés, mais c'est une série plutôt courte, donc c'est intéressant, puisque là on se dédie uniquement à une des maisons de cette école, donc celle de la Reine de Cœur. Mais rien n'empêchera, si ça marche, de visiter les autres maisons.
D'accord. En plus, il y en a quatre. Enfin, c'est facile.
Non, il y en a un peu plus que quatre.
Ouais.
T'as un petit livret dedans là, puisque avec le service de presse, on avait un petit un petit jeu en fait, qui proposait en fait de faire un test pour savoir à quelle maison on appartenait. Et en fait, on a six maisons. Donc, si vous voulez le faire, je pourrais vous partager ça. Ça peut être rigolo, puisque l'Académie Night Raven, voilà, accueille que des gens qui font de la magie.
Bien.
Donc c'est plutôt cool.
Mm-hmm. Ben oui, ça a l'air intéressant, ouais.
Voilà. Bon, ben on va pouvoir refaire nos chroniques.
Ben moi, je te propose de refaire la tienne déjà.
Ouais, on va refaire la mienne. Allez, on va repartir.
Alors non, tu vas pas refaire la tienne. Tu fais la tienne.
Ouais, je fais la mienne. Voilà, de toute façon,
c'est un one shot, donc tu fais la tienne. Voilà.
Allez, Luc, est-ce que je t'ai déjà parlé d'un album qui, au préalable, ne me tentait pas, mais qui, au final, m'a beaucoup plu?
Bah oui, en tout cas, tu l'as déjà évoqué, hein. Tu as fait part de tes résistances.
Ouais, on est d'accord que ça m'arrive quand même beaucoup, et à un point où je me dis que je devrais surtout me jeter sur des livres qui ne m'attirent pas plutôt que ceux qui me font de l'œil.
Bah, dans tous les cas, c'est peut-être le meilleur moyen de faire des découvertes.
Effectivement. Et je vais donc vous en proposer une belle ce jour et une découverte qui plus est qui va sur ton territoire, Luc.
Ah oui, c'est un polar.
Et non, c'est plutôt une adaptation littéraire. Alors, bois plutôt. Je vais vous parler, vous, chers auditeurs, de Oken de Shi Hongwu, d'après le poète taïwanais Yong Mu, publié aux éditions Lombard. Et pour être plus précis, il s'agit de l'adaptation en roman graphique d'une partie de Mountain, Wind and Ocean Rain, l'autobiographie de Yong Mu. Tu connaissais, Luc?
Oui, Yong Mu, je crois que j'ai entendu parler, mais c'est tout. Je ne connais pas.
Eh bien écoute, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur ce poète, mais aussi sur ce que je vais qualifier de BD étrangère, puisqu'on est bien sûr de la BD, mais on a des codes différents, et aussi d'en apprendre plus sur Taïwan même. En effet, ce roman graphique est un pur concentré de ces éléments. Si Yong Mu est taïwanais, et qu'il parle logiquement de Taïwan dans son autobiographie, c'est aussi le cas de Shi Hongwu, l'auteur de l'album, qui va aussi y apporter sa sensibilité et une approche du 9e art bien à lui.
Bon, d'accord, mais le titre, ça veut dire quoi, Oken?
Eh bien, Oken, c'est simplement le surnom qui était donné à Yong Mu dans son enfance. Enfance, qui est la partie centrale de la narration de cet ouvrage. On va suivre le jeune Oken, contraint de fuir sa ville natale de Hualien, pour rentrer dans les terres de l'île de Taïwan. La raison, le bombardement, plus que certains des forces américaines, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui tâche de faire fuir les Japonais pour prendre possession de l'île. Au cours de cet exode massif, le jeune garçon va se retrouver coupé de son confort, de ses habitudes, mais comme beaucoup d'enfants de son âge, il se fera rapidement de nouveaux amis.
Là, on peut dire que tu es plutôt succinct. Pourquoi c'est bien alors?
Déjà parce qu'on va suivre l'éveil d'un poète. À son jeune âge, tout est encore à construire pour Oken, et chaque expérience va forger l'adulte qu'il va devenir. C'est à cet âge qu'il va découvrir ses premiers émois érotiques, amoureux, qu'il va découvrir certaines colères et incompréhensions, mais aussi comment fonctionne le monde, et plus particulièrement son île. Et pour notre personnage, c'est fait avec une force et une intensité, et aussi une curiosité beaucoup plus poussée que celle des enfants de l'époque. Et ça, ça se déroule dans un monde qui lui aussi change. Je ne vais pas vous faire un cours de politique, mais Taïwan, ça n'a pas été très simple sur cette période-là. Entre les Japonais, les Américains, les Chinois communistes, les Chinois pas communistes, la vie des autochtones, elle n'a pas été de tout repos, et les règles, ils ont dû s'adapter à tous ces changements-là.
Donc là, on voit à peu près éveil d'un jeune poète, environnement politique, mais le graphisme dans tout ça.
Bien, tu as raison, ce graphisme, ça devrait être la raison principale que je vous donne pour lire ce livre. C'est tellement beau, tellement grandiose. Le dessin, il est plutôt divisé en deux, trois types. Les décors, tout en peinture, encre, avec de la matière, avec des coups de pinceau. Shi Hong ne se prive pas d'exploiter chaque portion de page à sa disposition, avec parfois des cases uniques sur une double page. On a une magnifique double page d'une montagne. C'est juste dingue, moi je voudrais ça en tableau chez moi. Et puis il utilise des teintes de couleurs qu'il applique dans ses moindres variations. Des rouges, des rosés, des verts, des bleus et aussi du noir. Mais aussi avec ses personnages qui semblent provenir d'un autre artiste. Car plus précis, dans un style différent, moins coloré et avec un design qui donne une sensation un petit peu bizarre. Alors, je connais pas particulièrement Taïwan, je sais pas s'il fait particulièrement froid, mais Shi Hongwu dessine ces personnages avec le nez, les oreilles et les doigts d'une teinte plus rouge. Il y a probablement une signification autre que graphique, mais je l'ignore et j'ai pas réussi à trouver de réponse. Et puis comme je le disais il y a quelques instants, Shi Hongwu a sa propre grammaire du roman graphique. Il s'affranchit des codes du 9e art classique sans pour autant partir dans tous les sens. Il passe aisément de la scène simple du quotidien pour dériver vers le cauchemar introspectif, tout en jouant avec le support. On a une page où on va avoir le personnage qui est littéralement déchiré dans l'ouvrage et le personnage qui tombe à travers l'ouverture du personnage, truc qui est complètement dingue. Et puis le style graphique, les couleurs utilisées sont en parfaite cohérence avec le récit. Hein. C'est un vrai régal à lire et à voir. Alors ça souffre hélas d'un défaut que beaucoup d'excellents ouvrages ont, celui d'être trop court, malgré ses 200 pages, et surtout de ne couvrir qu'une infime partie de la vie d'Yang Wu. Et j'ai pas l'impression qu'une suite soit au programme, hélas. Mais vous l'aurez compris, c'est une découverte que je souhaite à tout le monde parce que c'est un autre angle de vision de la BD, mais aussi simplement un album fabuleux.
Bah écoute, je valide, hein, je valide totalement. Moi, on est à la radio, donc les auditeurs ne peuvent pas voir. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est face à un objet, un livre d'art, quasiment un livre d'art, mais un livre d'art qui raconte une histoire et avec effectivement cette qualité de dessin asiatique. Là, on est à Taïwan, qui est vraiment éblouissante. Moi, je trouve les personnages sont très très beaux, et puis les paysages qu'il arrive à peindre, c'est tout simplement magnifique, quoi.
C'est dingue, en fait, parce qu'on a. J'aurais vraiment voulu le voir travailler, puisque j'ai l'impression qu'on a une multitude de techniques utilisées pour avoir ce rendu-là. Mmh. Il y a vraiment des endroits où on a la matière de la. Oui. Presque de la toile sur laquelle il a travaillé derrière. On sent les coups de pinceau. Et puis à côté de ça, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus éthérées. C'est juste c'est complètement dingue.
Rien que la couverture, hein, que pour voir entièrement, il faut déployer, il faut ouvrir l'album en entier. Deux enfants, deux personnages qui sont dans la mer, hein, de toute évidence, dans de l'eau, en tout cas, une eau bleue, une eau turquoise. En paysage de fond, des montagnes. C'est des textures complètement différentes. Les montagnes, elles sont dans une texture particulière. Les personnages sont au trait. L'eau dans laquelle ils sont, ça peut être de la craie grasse. Ça peut être. C'est vraiment assez éblouissant. Et le titre, hein, de l'album, hein, qui est dans un cartouche, qui donne un côté très très percutant. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un beau conseil de lecture que tu nous donnes là.
Et tu vois, je vais même aller plus loin. Alors, c'est pas du divulgachage, hein, mais quand même un petit peu. Mmh. C'est-à-dire que la couverture, c'est une des dernières vignettes de l'album.
Mmh.
Et alors, si l'éditeur le fait, moi j'ai le droit de le dire.
Oui, hein, tu peux le dire. Mais il y a que le lecteur qui le sait quand il l'a fait, quand il a parcouru tout l'album.
Et par contre, savoir qui sont ces personnages sur la couverture, c'est une autre affaire.
Ok.
Voilà, voilà. Bon. On a fait beaucoup de temps d'émission, hein.
Non, mais t'as peut-être d'autres choses à nous présenter.
Je peux vous parler de bibliothèque un petit peu, ce qui va être rigolo. Plutôt jeunesse, avec Molly Wind, bibliothécaire du Far West, de Tony Gelmes et Catalina González Villar, publié aux éditions Dupuis. Je vais te le passer. En gros,
on est chez Dupuis, là.
Voilà. Mais c'est pas du tout la même ambiance là. On passe d'un poète, on passe à
une
bibliothèque. Mais par contre,
le choc est violent.
C'est, je trouve ça hyper intéressant quand même, puisque en fait on suit une jeune fille qui vit avec sa maman et sa grande sœur, et on sent qu'il y a eu un revers de fortune puisque ils sont pas dans la misère, mais on va dire que le moindre sou compte. Et pour pouvoir aider un petit peu à sa maman, la grande va décider de devenir bibliothécaire itinérante. Donc elle va emprunter un cheval à la bibliothèque, elle va mettre des bouquins dans sa sacoche, et en fait elle va relier toutes les fermes qui sont dans les montagnes pour leur permettre d'avoir de la lecture. Et puis un jour elle tombe malade, et c'est sa petite sœur qui va utiliser un cheval en particulier, qui a une histoire bien à lui en parallèle, pour aller remplacer sa grande sœur. Et moi, je trouve ça cool, en fait, parce que déjà, le bouquin est sympa. Les personnages, on s'y attache. On sent que il y a la contextualisation. Il y a plein de choses. Et je trouve ça aussi cool de se dire que les bibliothèques où nous, on a juste à se déplacer pour aller chercher des bouquins avec des conditions qui sont idéales. Je rappelle qu'à Angers, jusqu'à 25 ans, on peut avoir une carte de bibliothèque et emprunter des bouquins gratuitement.
Mmh.
C'est quand même génial.
Oui.
Alors qu'à l'époque, pour avoir un bouquin, fallait attendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et des fois, on pourrait même pas lire à la fin parce qu'il manquait des bouts.
Oui. C'est très. Alors graphiquement, hein, le cheval de la première image, il fait penser un peu à Jolly Jumper.
Côté très cartoon, hein.
Ouais, c'est très cartoonesque, mais Enfin, je trouve que c'est intéressant de présenter une bande dessinée dans l'esthétique franco-belge. Hein. On est dans la ligne claire. Enfin, mais de donner ça, d'offrir ça à du jeune public, parce que c'est destiné au jeune public. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour comprendre ce que c'est qu'une bande dessinée finalement. Enfin, il faut c'est pas très c'est pas puéril, c'est pas lénifiant de toute évidence. Non, je trouve que c'est vraiment un album qui semble intéressant, ouais.
Mm-hmm. Moi je le conseille parce que on s'attache vraiment à ces personnages-là. Il y a du gag parce que il en faut, il y a des méchants qui sont méchants parce que ils sont juste méchants. Plus oui. Souvent bête que méchant d'ailleurs. Méchant
on le voit,
derrière.
Oui, on le voit dans quelques dessins, oui. On imagine bien qu'ils sont un peu bas du front, oui.
Mais ça marche bien et j'avoue que j'ai pas eu le temps de le faire avant là d'en parler ce soir, mais j'ai envie de me renseigner en fait sur ces libraires itinérantes, si ça a vraiment existé ou si simplement c'est une très bonne idée de le faire parce qu'on s'est rendu compte que distribuer des livres c'était pas simple. On a eu un album il y a quelques années, pas si longtemps que ça, mais qui s'appelait La Bibliomule de Cordoue, où on suit justement quelqu'un qui va distribuer des livres en bibliothèque, avec une bibliomule du coup, une mule qu'on a chargée de bouquins. Et c'est intéressant aussi de redécouvrir comment on a pu s'approprier les livres et les histoires. Moi, je trouve ça fabuleux. Donc, je vous conseille de lire Molly Wind de Tony Gelmes et Catalina González-Villar. C'est une bibliothécaire du Far West et c'est publié aux éditions Dupuis. J'hésite à remettre la chronique de Fabien qu'on a diffusée coup dans le vide tout à l'heure.
Bah non, vas-y, oui, renvoie-la.
On va la renvoyer. Hop. Allez, c'est Fabien qui nous parle.
Eh bien, ce soir, je vais vous parler d'un autre one-shot, ou disons plutôt qu'il a été réuni en un seul tome. Il y en avait deux au départ. C'est Le Chien Gardien d'Étoiles. Donc, c'est un tome qui est sorti initialement en 2011 chez Sarbacane.
Ok.
Et qui vient juste d'être réédité en 2024 aux éditions Pika, dans la collection Pika Graphique, donc les grands tomes.
Les grands formats. Ouais,
ouais. Les grands formats. Collection que j'aime beaucoup, ça permet vraiment d'avoir des belles planches et de se plonger dans l'histoire. Au départ, c'est un titre qui est sorti en 2008 au Japon. Et au dessin et au scénario, on a Takashi Murakami. Donc on est sur un seinen, drame social, vraiment. Donc là, on va être sur de la tranche de vie. Moi, j'aime particulièrement ce genre de récit. Récit plus adulte, hein, clairement. C'est pas que les enfants pourraient pas les lire, mais c'est pas forcément ce qui va leur plaire. Et encore que, hein, on peut être surpris, parce que du coup, ça peut permettre d'ouvrir d'autres horizons, parce que l'histoire est très belle. En fait, on va être sur un road movie bouleversant, qui va vraiment nous parler de la dureté de la société, mais avec une touche douce, pleine d'émotions et de sensibilité. Ça va pas être de violent, mais tout ça, mais par contre, ça va vraiment nous présenter la vie comme elle peut être, c'est-à-dire vraiment difficile.
Cru.
Alors, c'est pas vraiment cru en tant que tel, parce que on va vraiment suivre la vie du personnage principal et de son chien. C'est pour ça que ça s'appelle Le Chien Gardien d'Étoiles. Et donc, en fait, l'histoire commence par la découverte en fait d'un corps sans vie d'un homme et de son chien dans une carcasse de voiture en plein milieu d'un champ de tournesol. Mais on va apprendre que, fait étrange, la mort de l'homme remonte à plus d'un an et celle du chien à peu près 3 mois. Et donc là, flashback, on va revenir dans le passé et on va retrouver une famille japonaise composée d'un mari, de sa femme et de leur fille. Famille assez ordinaire, et la petite fille va trouver un chiot abandonné qu'elle va ramener et que la famille va finalement accepter de garder. Et en fait, c'est par les yeux de ce chien qu'on va suivre la vie de la famille. Donc on va voir les pensées du chien, mais avec son côté très naïf, comme un peu comme un enfant, parce que comme il avec sa façon de voir les choses et d'interpréter les choses. Et donc les premières années vont s'écouler très rapidement. Au final, on va se rendre compte, au début, la petite fille joue beaucoup avec le chien et tout ça, mais elle va grandir, donc à devenir adolescente. Et au final, c'est le mari qui, lui, va vraiment s'occuper du chien. Ce chien qui va l'appeler papa. En fait, quand il parle de lui, nous on est les seuls à le voir, hein, c'est dans la tête du chien, il va l'appeler papa à chaque fois. Et malheureusement, cet homme est malade, perd son emploi, et sa femme décide de le quitter, accompagnée de sa fille. Donc en gros, ils partent, ils se retrouvent tout seuls dans l'appartement ou la maison, et ils décident de faire ses valises et de partir en voiture, en voyage avec son chien en longeant le bord de la mer. Donc on va suivre ce voyage-là, ce road movie d'un homme et de son chien, avec le côté dur, hein, parce qu'il était abandonné quand même, il se retrouve avec plus rien, et il va rencontrer quelques personnes, il va y avoir des faits de vie entre ce chien et cet homme, avec vraiment on sent qu'il y a une complicité entre les deux, et avec le regard du chien qui est assez bouleversant par rapport à lui, à ne pas voir la dureté des choses, quoi. C'est vraiment une histoire magnifiquement décrite. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai même eu les larmes aux yeux qui montaient par moments, sentir l'estomac se nouer sur certains passages, mais avec une touche de délicatesse. C'est-à-dire que c'est pas fait pour nous montrer comme quoi tout est dur, mais plutôt dans le sens où cet homme-là, finalement, on a l'impression qu'il est serein à la fin, presque. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est que même si c'est dur, il va avoir trouvé quelque chose, un repos, une paix, en fait, ça va être paisible. Et ça, c'est la première partie. Parce qu'en fait, il est décomposé en plusieurs parties, ce bouquin. Une fois qu'on a eu cette histoire-là, on va avoir des visions dans d'autres histoires extérieures. C'est-à-dire qu'on va avoir, à un moment donné, un assistant social, parce que du coup, il va être appelé, parce que le corps a été retrouvé. Et en fait, là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne au Japon. C'est eux qui sont censés essayer de savoir qui c'était et tout ça. Donc lui, il va essayer de retracer un petit peu les choses. Et on va en apprendre un peu de sa vie, qui est pas forcément simple non plus. Donc voilà, ça va être des petits bouts de tranches de vie de personnages qui ont gravité autour de cette histoire-là. Et toujours en plein de délicatesse, avec un très beau regard, en fait, sur la vie, en fait, de manière générale. Les côtés qui sont pas forcément simples non plus. Mais moi, j'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai passé un très bon moment. Et c'est vraiment un gros coup de cœur que je conseille vraiment vivement. Les dessins sont très sympas. C'est réaliste. Du coup, ça convient très bien avec la tranche de vie. C'est clair, c'est et ça nous emmène vraiment dans les histoires comme ça. Et un très très bon moment passé à lire ce tome.
Et ben en tout cas, ça donne vraiment envie hein, de découvrir ça. Tu peux redonner les références ?
Ouais. Donc c'est Le Chien Gardien d'Étoiles par Takashi Murakami et c'est aux éditions Pika dans la collection Pika Graphique.
Et ben on remercie Fabien si tu nous écoutes. T'aurais été diffusé une fois à l'audio et
une fois à blanc et une fois en vrai.
Ouais, oui, c'est les jouets directs. On change un tout petit truc et puis on se fait avoir par la routine.
Voilà.
Et c'est foutu dans ces cas-là. Je sais pas de quoi parler là en fait parce que si je peux parler vite fait des racontages de Monsieur Perrault. De Monsieur Perrault, publié aux éditions Dargo par Pog et Léon, note d'automne. Comment expliquer ça? On suit Monsieur Perrault qui va à l'école Belle Épine, qui est devenue un institut là-bas, et on a tout un tas d'élèves qui sont des versions alternatives retravaillées des personnages des contes de Perrault. On a les trois petits cochons qui sont renommés qui bavent, qui pètent et qui puent. On a Greta qui est une petite fille avec un petit chaperon rouge. On en a une qui passe son temps à dormir. Voilà, c'est très rigolo, c'est très mignon, c'est plein de petites histoires. On est dans des tons plutôt sépia, avec des teintes très colorées, très automnales. Mais c'est en partie normal, puisqu'il s'appelle Note d'automne, et il y aura visiblement 4 tomes, un par saison.
Note d'été, note d'hiver et note de printemps.
Je crois que ce sera pas tout à fait note à chaque fois.
Bon.
Je crois qu'ils doivent être présentés en toute fin du bouquin. C'est très mignon, c'est très sympa. Vous allez passer un bon moment. Il y a plein de, c'est destiné aux plus jeunes. Hein. Ça, faut qu'on en soit en pleine conscience. Mais ça marche bien, c'est mignon. Les enfants se font des réflexions d'enfants. Je pense que si vous lisez ça à vos enfants, il y aura aucun souci. Ils vont être plutôt en raccord. Et puis, à la toute fin, il y a un petit cahier qui explique les origines de certains des personnages et pourquoi ils les ont transformés de telle ou telle façon. Et je pense qu'on couvrira tous les personnages de la BD au fil des 4 albums qui sont prévus.
Mmh.
Donc voilà.
Oui, c'est... Alors ça, c'est... Là, on est chez Dargo.
Ouais.
C'est... Oui, c'est... Vraiment, c'est un basique. J'ai l'impression que c'est un basique dans le qui relie bien entendu au conte de Perrault. Et il me semble que c'est fait pour une lecture à deux, quoi, entre parents et enfants. Enfin, j'ai l'impression que, ouais, faut qu'il y ait un parent qui permette un peu, enfin, qui accompagne, en fait, cette lecture, parce que ça s'adresse aussi à des petits, donc, je pense que c'est...
Ou alors sur des premières lectures.
Ouais, des premières lectures, ouais. Mmh.
Donc ouais. Mais ça passe très bien. Et ça, si vous voulez un livre qui vous pouvez lire une petite histoire le soir, parce que c'est des petites scénettes, mm-hmm. À vos enfants, ce sera tout à fait faisable. Mm-hmm. C'est les racontages de Monsieur Perrault. C'est le tome 1, note d'automne sur 4, et c'est de Pog et Léon. C'est publié aux éditions d'Argo.
Eh ben vous avez. Hop.
That's all, folks.
Eh bien, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Je remercie Luc de m'avoir accompagné tout au long de cette heure pour nous et demi-heure pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour les Voix du Scénarium à 21h. Et puis, dans 15 jours, de 19h à 20h, vous pourrez retrouver ce podcast sur le www.radio-g.fr dans quelques instants. Et puis, juste avant de partir, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Il est parfaitement ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!
So bright, so bright, so bright that I forgot about the dark.
www.radio-g.fr